hors champ. Orchan, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchan ce soir en compagnie de Colette Godard. Vous vous souvenez de la première pièce de théâtre
que j'ai vue? Oh non, je ne peux pas m'en souvenir parce que je devais avoir 7 ans. J'allais dire, mes parents étaient des cinglés de théâtre, donc on allait au théâtre et j'ai vu la première pièce dont je me souviens. Ça doit être La Dame aux Camélias avec Edwige Feuillère. Mais c'est un très, très, très vague souvenir. Non, après, j'ai vu des... Disons que moi, personnellement, je suis allée pas mal au théâtre. J'ai continué à aller pas mal au théâtre, évidemment. Et je me souviens de Du Billard. Ah oui. Et puis Les Nègres, par Blin. Ça m'avait vraiment frappé. Alors, il faut dire, je connaissais pas du tout Genet. Et puis, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais vu. Et le thème m'a énormément touchée, quoi. Ça m'a vraiment prise. Ces gens qui sont, rejetés, quoi. Bon, c'était tout de suite après la guerre, hein. Et puis sinon, après il y a eu Strehler avec ses Goldoni, et puis évidemment Chéreau. Chéreau, la première fois, c'était, ça devait être vers 66, je crois, et c'était donc l'affaire de la rue de l'Oursine. Moi j'ai vu aux Trois Baudets. Et alors là, j'ai été accrochée tout de suite et ça a duré jusqu'au bout. Parce que, disons que le côté théâtre physique comme ça était quand même encore assez rare à cette époque-là. Là, il y avait une telle... On peut pas parler exactement de violence, c'est plutôt de la force, une force rageuse, quoi. Qui était vraiment, pour la biche, ça fait bizarre, mais bon, ça tenait, quoi. Ça tenait, il y avait un côté expressionniste qui, moi, me touchait beaucoup. Voilà, et puis évidemment aussi Ariane Mnouchkine, le Théâtre du Soleil. Le premier spectacle que j'ai vu d'eux, c'était Le Capitaine Fracasse. Assez, pas étrange, mais vivant, très très vivant. Et puis après, j'ai suivi, évidemment, la cuisine, les clowns, puis 1789, enfin, je crois que j'ai pas arrêté de les voir, parce que même je suis allée voir son Macbeth, et puis je l'ai retrouvée, elle... qui prenait les billets à l'entrée, qui souriait, c'était toujours aussi chaleureux. Elle a quelque chose de très 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 spécial, sa générosité. Et je trouve que c'est assez rare
dans ce monde du théâtre. Mais alors, avant de revenir sur tout ce parcours de regardeuse, car on peut dire que vous êtes une regardeuse, Colette Godard. Ça fait 50 ans ou 60 ans que vous allez au théâtre pratiquement tous les soirs et que vous écrivez sur cette pratique du théâtre, notamment dans le journal Le Monde pendant très 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 longtemps. Comment s'est opéré la décision d'en faire votre métier entre le moment où, petite fille, vous alliez au théâtre et puis le moment où vous avez décidé de rentrer dans un journal pour pouvoir assouvir votre propre passion?
Ah, mais j'ai pas décidé. Franchement, j'ai pas décidé du tout. À vrai dire, ça peut paraître bizarre, mais tout de suite après la guerre, les seuls endroits où on trouvait du travail, c'était les journaux. Il y avait des quantités invraisemblables de journaux, mais qui n'avaient rien à voir. Enfin, je sais pas, c'était plutôt dans le genre Elle ou comme ça. Comme j'allais au théâtre et puis, je sais pas, ça s'est fait tout seul. Et puis, c'est pas moi qui ai décidé d'entrer au monde. Évidemment, j'ai été très flattée. J'ai commencé par faire de la radio comme assistante. Puis après, j'ai eu des émissions. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré Nicole Zand. Et quand Nicole Zand, elle est partie aux États-Unis, elle m'a demandé si je voulais la remplacer. Évidemment, ça me disait bien, oui. Et c'est comme ça que je suis rentrée au monde.
Ça veut dire quoi, aller au théâtre?
Ben, je sais pas, c'est comme respirer. On peut pas s'en passer. Je sais pas, c'est voir la vie. C'est être touché. C'est quelque chose de très affectif. Pour moi, en tout cas, le théâtre, c'est quelque chose de très... J'ai besoin d'être concernée par ce qui se passe sur scène, d'abord. Après, bon, si c'est réussi, si c'est beau, etc., voilà. Mais il faut que ça me touche. Il faut que je participe d'une certaine manière, affective, si vous voulez, à ce qui se passe sur scène, à ces gens qui sont en train de vivre quelque chose, quoi. Bon, pour moi, à la base, c'est ça. Puis, évidemment, après, bon, il y a toutes sortes de possibilités, quoi. Mais au départ, il faut que je sois touchée.
Ça s'apprend, regarder le théâtre?
Oh, oui, mais ça s'apprend comme on apprend à parler, quoi. Comme on apprend à regarder, comme on apprend à... Ça s'apprend tout naturellement, à force. Je sais pas, j'ai jamais pensé à que j'avais appris à... Oui, forcément, j'ai appris à regarder, puisque quand j'ai commencé à écrire, il a bien fallu que j'apprenne à regarder et à faire la part des choses, quoi. C'est-à-dire, même si on écrit des articles assez subjectifs, c'est quand même, on informe. Donc, on apprend à regarder et à discerner ce qui vous a touché, ce qui peut toucher d'autres personnes, pourquoi ça vous a touché, pourquoi ça ne vous a pas touché. Bon, on apprend à ce genre de choses, mais on n'apprend pas à regarder le théâtre, on le reçoit, quoi.
Au départ, une personne qui vous a touché n'appartenait pas au monde du théâtre, mais son apparition était par définition théâtrale. Nous allons l'écouter, elle s'appelle Édith Piaf, elle va parler des journalistes et ensuite, eh bien, on écoutera la foule.
Ce que je reproche des fois aux journalistes, c'est de juger en un soir. À mon avis, il devrait revenir 3-4 soirs, parce qu'on ne découvre pas un artiste en une seule fois, il y a trop de choses à voir. Et je crois que le tort, je crois, d'un journaliste, c'est de venir un soir et puis de faire sa critique. Parce qu'il peut tomber que ce soir-là, cet artiste ne soit pas en forme, ça arrive à tout le monde. Lui-même, en écrivant son article, peut très bien ne pas être en forme, n'est-ce pas? Ça arrive à tout le monde, pourtant
oui,
il faut qu'il donne son papier. Mais je dois dire que moi, j'adore les premières tout en crevant de trac, parce qu'il y a une atmosphère extraordinaire, on est survolté, on est mort de trac, c'est un fait, mais il se passe aussi quelque chose qui est inexplicable et qui n'existe que les soirs de première. C'est on gagne ou on perd, mais si on gagne, c'est extraordinaire. Et on a besoin de cette première, je crois, pour l'affronter, pour se dépasser soi-même. Sinon, je crois qu'on s'endormirait dans un petit train-train régulier, mais c'est parce qu'on sent cette première arrivée qu'on veut se surpasser et qu'on gamberge, si je puis dire, qu'on se dit, mon Dieu, il va y avoir un tel, 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 mais c'est affreux. Et on rentre là-dedans comme dans une cage à lion. On est vu comme des fauves et il faut absolument les dompter. Et c'est formidable si on arrive à gagner. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, ils se reculent et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et traînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. La joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Voici ce que vous écrivez, Colette Godard, à propos d'Édith Piaf. Elle chantait les petits monsieur tristes, les loubards qui jouent à Capone avec un Browning. Elle aurait pu chanter n'importe quoi, et d'ailleurs elle ne s'en est pas privée, mais c'était sa voix qui comptait. Même sur un disque qui gratte, elle a sa voix, quelque chose de vertigineux. C'est physique, elle emmène dans des ailleurs étranges comme les maisons hantées, les lacs sombres, les forêts des contes de fées. Plus tard, je l'ai entendue et vue sur scène. J'avais peur. Elle m'envoûtait depuis mon enfance. Adulte, je ne savais pas si j'allais la retrouver. Et voilà, c'était encore mieux.
Oui, mais elle...
Et vous venez de fermer les yeux quand vous l'écoutiez.
Ah oui, c'est vrai. Moi, j'étais toute gosse quand j'ai entendu à la TSF. Et c'est comme si elle était à l'intérieur de moi, quoi. Et puis, j'ai continué, et puis, je ne sais pas, peut-être jamais, à aucun moment, j'ai été déçue par sa voix. C'est quelque chose de, qui dépasse le talent, quoi. Moi, je la connaissais pas du tout, hein. J'ai jamais osé l'approcher, mais, C'est comme si elle m'appartenait, comme si elle était à l'intérieur de moi, comme si elle me parlait à moi. Et cette voix, quand même, non, c'est franchement, il n'y a pas que moi. Hein. Je pense que Évidemment, elle a eu une vie peut-être qui explique aussi, qui lui a permis d'arriver comme ça jusqu'au bout. Mais vraiment, la dernière fois que je l'ai vue, c'est vrai, je vous jure, il y avait au début, on a eu peur parce qu'elle est arrivée un peu flageolante, et à la fin, tout le monde était debout et pleurait et l'applaudissait, quoi. On pouvait pas lui échapper. C'est comme ça. C'est formidable quand même. Vous savez, les gens qui ont une voix, c'est-à-dire, vous pouvez tout. Bien sûr, faut travailler. Puis qu'on pense aussi aux chanteurs d'opéra dans un autre genre. Mais si vous avez pas la voix au départ, y a rien à faire, hein.
Et au théâtre, ça s'appelle la présence. Comment la qualifieriez-vous, cette présence?
La présence, c'est, si vous voulez, c'est quelqu'un qu'on a envie de connaître davantage. C'est quelqu'un qui est sur scène, qui joue, je sais pas, c'est quelqu'un, en dehors même de ce qu'il est en train de dire, ou de ce qu'elle est en train de dire, on a envie de les connaître. D'aller plus loin, quoi. Et c'est ça, la présence. C'est pas tellement ce qu'ils disent, c'est quelque chose qu'ils mettent dans ce qu'ils disent. Ça peut être des trucs très, très différents, mais regardez, ça peut être des gens complètement délirants comme Carmelo Bene, ou au contraire, mais de toute façon, c'est des gens qu'on a envie de connaître mieux, quoi.
Gérard Philippe, vous vous souvenez de son apparition?
Oui, mais alors là, je dois avouer que je n'étais pas fascinée.
Il en faisait trop.
Non, c'est pas... Au cinéma, je le trouvais formidable. Et puis alors, sur scène, d'abord, il y a quand même sa voix. Et puis...
Que vous n'aimez pas?
Non. Et... Si je peux avouer ça, non, il m'a pas touchée.
Donc cette présence est très mystérieuse pour vous. C'est provoquer oui. L'émotion, l'intensité.
Oui, c'est très bien parce que l'arrivée, il était beau. Puis c'est vrai qu'il existait, mais bon, et puis c'est tout. J'avais pas envie qu'il continue. Lui, c'est pas, comment dire, c'est pas que je trouvais mauvais ou quoi, mais bon, voilà, quoi, il jouait son truc. Enfin bon, c'est moi parce que...
Est-ce que c'est un metteur en scène qui invente des acteurs, ou est-ce que les acteurs possèdent en eux-mêmes cette propre capacité à épouser leur rôle?
Je pense que un metteur en scène peut aider un comédien à trouver la manière de s'exprimer lui personnellement. Mais s'il a rien, enfin, c'est quand même quelque chose qui existe à l'intérieur du comédien, ça. C'est, il peut être aidé par un metteur en scène, mais voilà, quoi. C'est, s'il est pas, s'il existe pas, c'est pas quelqu'un, enfin, s'il existe pas, je suis méchante, là, mais, non, il faut que lui-même possède quelque chose, que le metteur en scène l'aide à exprimer, à sortir, quoi, à faire entendre, à faire ressentir, plutôt.
Nous allons écouter la voix de Roland Barthes. C'était au micro de Guy Dumur. Il va parler de Racine. C'était dans l'émission Mise en scène le 10 février 1974.
Il me semble que le lieu racinien, son intérêt, c'est qu'il est ce que j'appellerais maintenant, alors je vais employer un mot nouveau par rapport à ses écrits anciens, disons un lieu indirect. Et c'est pour ça que c'est un lieu menaçant, n'est-ce pas? La menace, c'est toujours quelque chose d'indirect. Et c'est un lieu indirect, bon, c'est un lieu fermé, chacun sait cela, c'est un lieu indirect parce que justement, la scène à laquelle nous assistons se passe presque toujours, je crois, dans, disons, ce qu'on appelle une antichambre, n'est-ce pas ? Comme s'il y avait, au-delà de cette antichambre, un cœur, un lieu qui est au cœur de l'action, ou au cœur du pouvoir, ou au cœur de la domination, ou au cœur de l'oppression, ou au cœur de la mort, mais que nous ne voyons jamais. Et c'est cette présence, c'est pas comme, disons, dans des spectacles terrifiques, c'est toujours ce qu'on ne voit pas, mais qui est là, qui est derrière le mur, derrière le voile, c'est cela qui menace et qui fait peur. Et puis alors aussi, c'est un lieu indirect par rapport alors à cet énorme extérieur qui entoure toujours, et ça c'est même l'une des grandes réussites alors textuelles de Racine, c'est que dans le texte de Racine, passe toujours comme des effluves ou des fantasmes ou des rêves, un extérieur très aéré, disons, une grande nature.
Je vous vois pensive en écoutant les propos de Roland Barthes sur Racine, Colette Godard.
Mais Racine, ça dépend comment... Vous savez, moi, je ne peux pas parler de Racine tout seul. Il faut que ça soit Racine par machin truc, quoi. C'est... c'est intéressant, mais très franchement, ça ne me concerne pas.
Mais par contre, ce que vous avez vécu pendant des décennies, Colette Godard, c'est peut-être la manière d'habiter les textes de Racine.
Absolument.
Entre le français à la fin de la guerre et puis, par exemple, on parlait de Chéreau tout à l'heure, quand on dit Racine, on se souvient de Phèdre, par exemple.
Oui. Bah oui, en fait, Phèdre, il a eu... Ça a été, disons que l'accueil a été difficile. Et moi, j'avais trouvé Dominique Blanc vraiment formidable. Formidable parce que justement, elle arrivait à donner une autre, quelque chose qu'on n'attendait pas. Et puis avec une espèce de souffrance qui dépassait disons ce qu'on attend, bon, parce que Phèdre, c'est pas quelque chose d'inconnu, hein, on a vu. Et bon, on en a vu d'autres qui étaient, mais là c'était vraiment il y avait quelque chose, encore une fois, très physique, quoi. Le théâtre de Chéreau, c'est quelque chose qui joue sur les corps, et là aussi, et justement Dominique Blanc, elle le donnait très fort. Et Puis le décor aussi, enfin le décor, la disposition scénique était vraiment aussi, on se trouvait tout, à la fois tout près des comédiens et dans un autre monde, mais ils étaient proches, ils étaient là.
Est-ce que, comme certains autres critiques, et je pense plus particulièrement à Michel Cournot, qui travaillait au Monde aussi avec vous, est-ce qu'avant d'aller voir un spectacle, vous relisez les textes?
Ah, lui, oui, il relisait non seulement le texte, mais je crois toute la production de l'auteur. Mais non, moi, alors, ça me fait peur, ce genre de choses, parce que ce que j'aime, c'est découvrir. Et bon, déjà, c'est difficile parce que plus on avance en âge, plus il est difficile d'être surpris. Mais
parce qu'on en a trop vu, ça existe, ça, le trop plein.
Oui, c'est sûr. Si vous voulez, maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui réinventent ce qui s'est fait, mais moi, pour moi, c'est difficile. C'est difficile de... Je ne pourrais pas écrire de papier sur ce genre de spectacle parce que j'ai déjà vu, je sais où ça va. Et donc, je sais où il y a les pièges, où il y a les portes ouvertes. Et c'est très difficile, quoi. Je pense que... Moi, ce qui me fait plaisir maintenant, c'est d'aller au théâtre sans avoir à écrire de papier. Parce que ça me serait très difficile d'écrire... Je n'aurais pas la possibilité, si vous voulez, d'écrire comme si je n'avais pas toute cette expérience. Ça existe en moi, c'est comme ça, quoi.
Mais le fait de voir des jeunes metteurs en scène réinventer des choses qui étaient en fait de véritables révolutions il y a 30 ans, en l'ignorant d'ailleurs bien souvent... ça n'éteint pas pour vous le désir de continuer à aller au théâtre?
Oh ben évidemment, non. Puis justement, de voir comme... Je trouve ça intéressant qu'ils réinventent, parce que j'attends toujours qu'à partir de cette réinvention, ils ouvrent d'autres portes. Mais c'est là où c'est difficile, quoi. Parce que on est un peu bloqué par ce qu'on sait. C'est...
Il faudrait arriver vierge dans une salle de théâtre.
Bah oui, mais... bah oui, mais bon. ça me paraît... Enfin, je sais pas, il y a peut-être des gens qui y arrivent.
En tout cas, on a coutume de dire que dans le monde de l'histoire du théâtre, il y aurait eu une sanctification du metteur en scène au détriment à la fois du texte et de sa compréhension et aussi de la direction d'acteur. Est-ce que vous avez eu l'impression de vivre ce moment-là du théâtre, Colette Godard, dans votre pratique professionnelle? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en 2015, on soit arrivé à un équilibre un peu plus subtil entre le texte, les acteurs, le metteur en scène?
Oui, je pense que le règne du metteur en scène, entre guillemets, c'est un peu... Bon, c'est terminé. Ça a été utile. Mais bon, maintenant, c'est un peu autre chose. Si vous voulez, maintenant, je pense que ce qui est le plus intéressant, peut-être, c'est la relecture. Bon, là, il y a eu aussi des relectures, c'est Planchon, etc. Mais il y a autre chose maintenant, c'est presque sur la façon de reconstruire une pièce à partir du texte, mais aussi, étant donné les progrès techniques dont on peut servir au théâtre, une manière comme ça de se servir des effets spéciaux, de se servir des possibilités qu'offrent les décors. Enfin, il y a quelque chose là maintenant, je trouve, qui est en train de se passer, quoi,
au niveau de la forme. C'est-à-dire que le metteur en scène serait en quelque sorte comme un peintre ou comme un musicien qui utiliserait plusieurs techniques qu'il déploierait.
Presque comme un architecte qui construit une maison avec plusieurs éléments qui sont pas seulement le texte et le comédien. Bon, ça aussi, ça s'est pas fait tout seul. Je veux dire que, bon, on a vu les décors qui bougent, les éclairages, la vidéo qui est arrivée. Maintenant, voir un spectacle sans vidéo, on se demande si ça existe encore. Mais c'est justement la manière de s'en servir. Je trouve qu'on est arrivé quand même maintenant à une espèce de connaissance qui permet d'aller plus loin avec ces... Et pas seulement de s'en servir, mais de les faire participer à la création, quoi. Et à la compréhension et à la portée de l'ensemble. C'est un ensemble, finalement, un spectacle. C'est pas seulement un texte et des comédiens, c'est un ensemble.
Nous allons écouter la voix de Patrice Chéreau. C'était au micro de Jacques Chancel. Il va exprimer ses réactions aux sifflets qu'ont parfois provoqué ses œuvres, notamment au moment de la tétralogie à Bayreuth. C'était dans Radioscopie le 26 avril 1979.
A priori, je ne suis pas un bourreau de travail. Je veux dire, mais j'avais profondément envie de le faire et je n'ai jamais arrêté de faire ce métier à partir du jour où j'ai commencé à le faire. Et je l'ai fait en prenant les risques de le faire. C'est-à-dire, j'ai fait des dettes, j'ai fait une faillite. Je veux dire, quand j'ai eu un théâtre, j'ai fait bon, mais j'avais envie de le faire, peu importe.
Vous êtes marié?
Non.
Ça ne vous occupe pas?
Non.
C'est le théâtre qui vous occupe?
Oui. Oui, d'une certaine façon.
Enfin, vous me l'avez dit, vous ne trahissez pas les auteurs. Mais il faut bien le reconnaître, parfois, vous effrayez les âmes tranquilles. Et oui. C'est vrai, on vous applaudit, on vous siffle, rarement quand même. Et puis vous devez à certains moments même attendre un peu les sifflets. Parce que si tout était trop bien, ce serait trop convenable.
Non, je ne pose pas non plus le problème des sifflets. Mais par exemple, dans le cas de... Je reprends Bayreuth, parce que je n'ai jamais eu entendu autant de sifflets, surtout à l'égard de ma pauvre personne.
Comment est-on dans ces cas-là?
Ça me donne beaucoup d'énergie, ça me procure une grande joie.
Mais
non,
vous
pas
êtes
que je les provoque.
Ou pas?
Non, je ne suis pas étonné parce que si vous voulez, c'est ce que je le disais, je ne sais plus à qui l'autre jour.
Vous avez tout fait à Bayreuth, vous avez tout bousculé.
J'ai tout. Non, mais en plus le combat de Bayreuth, parce qu'il y avait un vrai combat pour faire ce que j'avais envie de faire et pour imposer d'une certaine façon le point de vue naïf que j'avais sur l'œuvre et dire ce que j'avais envie de dire dans la mesure où je croyais que cette œuvre avait encore des choses à dire. Finalement, le combat, je l'ai mené avant la première, c'est-à-dire que tout le combat, c'était les répétitions. Donc à partir du moment où le spectacle existait sur le plateau le jour de la première, la bataille était déjà d'une façon, avait eu lieu déjà. À ce moment-là, je veux dire que les gens sifflent ou pas, j'étais d'une relative tranquillité. Et finalement, de savoir que ça pouvait énerver autant de personnes me donnait d'une certaine façon raison, même si on ne peut pas chercher, même si on ne peut pas faire quelque chose uniquement pour provoquer les sifflets.
Alors, beaucoup de choses dans cette court entretien avec Jacques Chancel, beaucoup de choses qui vous ont fait sursauter, Colette Godard. Vous connaissez très bien Patrice Chéreau, vous avez fait un magnifique ouvrage avec lui d'entretien, vous avez vu toutes ses mises en scène depuis les premières, donc il raconte à Chancel ce qu'il veut bien dire et qui n'est pas forcément vrai. Quand il dit qu'il n'est pas un bourreau de travail, si, il travaillait tout le temps, jour et nuit.
Ah oui, non mais là, c'est vraiment, ça c'est drôle. Pourquoi il dit ça ? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu autrement qu'en train de travailler, même quand on déjeunait ou on dînait ensemble. Enfin, je ne sais pas, c'est pas un bourreau de travail. C'est pour lui, c'était pas une torture, donc c'est pour ça.
Il s'apercevait peut-être même pas qu'il était en train de travailler tout le
oui,
temps.
Oui, oui, non, oui, c'est vraiment, c'est, et puis, c'est vrai aussi, bon, bah, ça, il parle de Bayreuth, ça, à la fin, la quatrième année,
Il a été encensé.
Ah, bah, il y a eu une heure et demie d'applaudissements, hein, Et depuis, on ne demande plus les opéras de la même manière. Enfin, je veux dire, c'est... Et puis, je ne sais pas, je trouve que cette expression, trahir un auteur, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire.
Ça n'existe pas pour vous?
Non.
On se l'approprie et on donne sa version.
Oui, ils sont là pour ça, les metteurs en scène, enfin, avec les, enfin. Et puis, bon, alors, ça marche ou ça marche pas, mais je veux dire, ils réussissent ou ils réussissent pas, mais trahir, ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est vrai que c'est une expression qu'on voit assez souvent, mais je vois pas exactement à quoi ça correspond.
Et pourquoi et comment, selon vous, l'apport de Patrice Chéreau au monde du théâtre contemporain, et pas seulement français, hein, a été finalement assez compliqué? Pourquoi il s'est heurté au départ, certes, à l'éloge des critiques professionnelles, des amoureux du théâtre, mais quand même, par rapport au public, à une espèce de non-vouloir.
Oh, il a eu quand même des salles pleines. Hein. Je pense que, eh bien, il n'était pas complaisant. Voilà, c'est une litote. Et sa manière de, je veux dire que son théâtre était tellement physique, sans retenue, quoi. Je pense que il y avait peut-être quelque chose qui choquait, je ne sais pas, peut-être. Quand j'ai parlé avec des gens, des spectateurs non professionnels, tout ça, ils étaient pas opposés, ils se posaient des questions, il y avait, si vous voulez, il n'a jamais expliqué, ses mises en scène n'étaient pas explicatives. Et donc, je pense que c'est ça peut-être qui a gêné plusieurs catégories de spectateurs qui ont besoin, non pas qu'on leur explique mot par mot, mais qu'on donne une ligne dramaturgique très nette et très précise. Et ça, c'était pas du tout avec Chéreau. C'était beaucoup plus pas touffu, mais avec plusieurs possibilités, quoi. Et je pense que c'est ça qui a fait. C'est pas que c'était compliqué visuellement, c'était d'une force et d'une rigueur formidable, mais en me souvenant un peu de conversations que j'ai eues, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seule ligne dramaturgique, voilà, je pense.
Quelles sont les mises en scène qui ont marqué votre mémoire et est-ce que des metteurs en scène, parmi ceux que vous aimez, ne vous ont-ils jamais déçus? Est-ce que chaque metteur en scène a sa cohérence propre?
Oh oui, bon, puis il y a des choses ratées et réussies, hein, mais bon, en tout cas, moi, il y a un spectacle de Chéreau qui m'a marqué je pense, jusqu'à la fin de mes jours, c'est la dispute. La première version de la dispute à la Gaîté Lyrique. Et là, c'est là aussi où on se rend compte que le lieu où est donné le spectacle est extrêmement important. C'est-à-dire que la Gaîté Lyrique, à l'époque, c'était encore un théâtre à l'italienne, mais déjà très, très abîmé, très, très usé. Et justement, le thème de la dispute, tel que l'avait monté Chéreau, avec ces adultes qui arrivent, qui passent par-dessus la fosse d'orchestre vide, où il y a d'où sort la musique, et ces mômes, ces adolescents qui sont là, c'est, pour moi, je peux même pas analyser, c'est quelque chose qui reste comme, je sais pas, c'est unique, quoi, et puis, là, il y a peut-être quelque chose en moi qui s'est formé à partir de ce, qui s'est révélé, qui s'est, à partir de ce spectacle. Il y a eu ça, il y a des moments aussi dans 1789, parce que c'était aussi un peu une époque de théâtre déambulatoire. Mais là, c'était pas déambulatoire, c'était vraiment aussi, alors là, vraiment un ensemble de comédiens, qui représentait un peuple. Et c'était vraiment ça. Ils marchaient, même ils marchaient pas ensemble, je veux dire, mais c'était, ils allaient et venaient, ça, pour moi, ça représentait l'espèce de, toutes les questions qu'on pouvait se poser, quoi. C'est justement dans leur manière de marcher, d'aller d'un endroit à un autre sans une raison particulière vers les spectateurs, s'adresser directement aux spectateurs, mais sans démagogie, quoi.
Nous allons écouter la voix d'Ariane Mouchkine. Elle va parler du théâtre comme offrande.
C'est un rapport d'offrande. Voilà, au fond, hein, le théâtre était offert à l'origine, était offert aux dieux. Il était offert aux dieux devant des êtres humains. Voilà, petit, je simplifie, mais c'est un peu ça. On offrait des spectacles. Puis à un moment donné, le public est devenu, au fond, le dieu. Mais cette présence, cette sorte d'offrande, elle existe toujours. Hein. Et l'autre jour, on se disait avec les comédiens, il me venait comme ça un amour du vous savez, quand tout d'un coup on regarde un enfant, on a une bouffée d'amour. Et moi, j'ai cette bouffée d'amour avec mes petits-enfants ou d'autres enfants d'ailleurs, pas seulement. Mais on a des bouffées d'amour pour ce théâtre qui nous tient unis ou qui nous. Et je disais, bon, j'espère que dans 100 ans ou dans 200 ans, on n'expliquera pas aux gens ce qu'était le théâtre comme maintenant on nous explique ce qu'étaient les druides. Et je me suis dit, mais oui, j'espère, parce qu'au fond, on est des druides, on est des gens qui réunissons, comme ça, une assemblée à partager un banquet merveilleux, un banquet de l'esprit et des sens, qui est le théâtre. C'est ça le théâtre, c'est pas moi qui invente ça, c'est ça.
C'est des propos d'Ariane Mouchkine enregistrés il y a quelques mois.
Ah oui, bah oui, bah... Ce que vous disiez, c'est la générosité, c'est la chaleur humaine, c'est quelque chose que même. Alors là, je pense, j'ai vu vraiment beaucoup, je crois même tous ces spectacles, en tout cas ce qu'elle a donné à Paris. Et il y en a, j'ai pas marché, mais j'ai toujours été accrochée parce qu'elle vous donne quelque chose. Alors, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, bon, ça vous intéresse, mais elle vous donne. Et ça, c'est rare, quand même. C'est rare et c'est formidable. Ah oui.
Avez-vous l'impression que le public a changé depuis ces décennies où vous allez tous les soirs au théâtre? On peut constater que dans les salles, il y a de plus en plus de jeunes. Et est-ce pour autant que le rêve de Jean Vilar a été exaucé? Est-ce que le théâtre est devenu populaire ou est-ce qu'il s'adresse encore une fois qu'à une certaine élite, y compris les jeunes?
Oh, j'aime pas bien le mot élite. Je pense que oui, il y a si vous voulez, les jeunes qui vont, enfin, c'est quand même des ados, c'est pas des gosses, hein, c'est des ados. Et oui, c'est des gens, je suppose. Puis quand on voit, quand il y a des débats et tout ça, ils ont une curiosité sociologique, hein, beaucoup plus que littéraire, il me semble. Peut-être, bon, ça doit dépendre, mais il me semble. Et en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose qui est qui dépasse alors les classes sociales populaires ou élites ou tout ça. C'est le fait justement d'avoir des corps vivants sur scène, parce que j'ai quand même remarqué une chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de maintenant qu'il y a 20, 25 ans, de gosses qui vont voir la danse aussi. Alors la danse, ils mettent la danse et le théâtre à peu près sur le même niveau. Ils vont voir des gens vivants sur scène, des gens qui bougent, des gens qui vivent sur scène. Je sais pas, moi ça me paraît même... Bon, J'ai des arrière-petits-enfants et que j'emmène de temps en temps donc au théâtre et tout ça. Et
ils ont de la chance.
Oui, oh bah quand même je choisis, hein, parce que bon, mais c'est surtout jusqu'à un certain âge, au bout d'une heure un quart, ça devient dur de les tenir. Mais sinon, non, ils sont vraiment intéressés, quoi. Ça, c'est évident. Enfin, ils posent des questions. Après, c'est, je sais pas, ils ont vécu avec le spectacle.
Quelle serait votre définition du théâtre aujourd'hui, Colette Godard? Tout à l'heure, Ariane Mouchkine parlait de communauté, d'offrande, de citoyenneté. Est-ce que ça serait une ouverture de soi à soi?
Je pense que c'est quelque chose qui devient très rare, c'est, on peut dire la communication. Ouais, la communication, mais pas cérébrale. Encore une fois, le théâtre, c'est quelque chose de physique. C'est pas, si vous voulez, puis c'est pas comme dans la rue, on se bouscule, ou dans le métro, on se bouscule. C'est quelque chose, on fait attention à l'autre. Bah, ça devient rare. C'est pour ça que le théâtre, ça me paraît important.
Quand le spectacle est terminé et que vous franchissez la porte du théâtre et que je vous vois sortir dans la nuit, que faites-vous après la représentation?
Bah, maintenant, je n'ai plus à écrire, mais je n'écris pas, mais je me raconte ce que j'aurais pu écrire. Quand même, ça vous forme. Ça même, ça vous déforme. Voilà. Oui, je me raconte. J'écris pas, hein, mais je me raconte.
Ben, merci beaucoup, Colette Godard. Merci à Olivier Dupré, merci à Corinne Amard, Élodie Royer, Vincent Lecomte, Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture, dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.